Donc on va essayer de prolonger un petit peu la réflexion d'hier. Je pense pas qu'on arrivera aussi loin que j'aurais aimé, mais il faut les raisons de revenir aussi. Donc vous en aurez, comme ça. Je propose que je commence par terminer un petit peu ce sur quoi je vous ai laissé hier, à savoir le Concile Vatican II pour mémoire. Que je profite de ça pour aborder un aspect de la communion des saints. Et qu'ensuite, on puisse parler, enfin, puisse avoir un temps de questions-réponses. Donc, je vous ai laissé hier avec la phrase dans Lumen Gentium, le Concile Vatican II. Je vous la redonne. L'Église, en ses membres qui cheminent sur la terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts, dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi pour eux ses suffrages. Car la pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous commenter ce que le Concile entend dire par « offrant pour eux, donc pour les défunts, ses suffrages ». Pourquoi s'agit-il des suffrages ?
Non, c'est ici, les enfants.
Les suffrages, en fait, c'est un peu plus large que la prière. C'est pas seulement prier pour les défunts. Il s'agit pas seulement de prier pour eux. Et ça expliquera davantage pourquoi hier j'ai dit que ça engage de payer pour les défunts. Il s'agit d'offrir plus que des prières. Il s'agit d'offrir ses suffrages. Alors, mon suffrage, qu'est-ce que c'est? Je tourne le tour depuis tout à l'heure, là. L'idée, c'est, on a compris que c'est, au purgatoire, c'est l'amour qui purifie. C'est l'amour de Dieu qui purifie. Si c'est vrai au purgatoire, c'est vrai aussi ailleurs, à savoir sur terre. Comme dit saint Paul, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc je fais beaucoup de péchés, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde, et l'amour, puisque c'est l'amour qui purifie, si je vis déjà de l'amour de Dieu aujourd'hui sur terre, je peux déjà être purifié de mes péchés. Donc en ce sens-là, et en ce sens-là seulement, on peut dire, entre guillemets, qu'on peut faire son purgatoire sur la terre, pas parce qu'on souffre beaucoup, et que ça vaut comme le purgatoire, mais puisqu'on vit dans l'amour, eh bien on peut déjà se purifier de ses péchés sur terre. À vous intéresser. Donc on peut aller au ciel directement, sans passer par le purgatoire, il faut passer par la purification, mais cette purification, on peut la mettre en œuvre dès maintenant, puisque c'est l'amour qui purifie. Pour piger un peu ce que la purification vient faire ici, et pourquoi c'est l'amour qui purifie, il faut avoir un petit peu la notion du péché. La notion du péché dans la mesure où on essaie de distinguer un petit peu l'acte du péché et la conséquence du péché. Je ne vais pas vous embrouiller, mais c'est assez simple, vous connaissez déjà sans doute. Quand je fais un acte mauvais, il y a l'acte qui est mauvais en tant que tel, mais il y a la conséquence aussi. L'exemple qu'on prend habituellement pour les enfants du catéchisme, c'est le verre. Si je casse un verre à la maison, je vais demander pardon à maman, maman me pardonne, le pardon est donné, mais le verre reste cassé. Et je vous expliquais hier que le Seigneur ne voulait pas nous laisser casser, qu'il voulait nous restaurer. Donc, il ne s'agit pas seulement de demander pardon et d'être pardonné, il s'agit aussi de réparer. Donc au purgatoire, les âmes ne sont pas en état de conflit avec Dieu, elles sont pardonnées de leurs péchés. On ne prie pas pour elles, c'est un peu la différence dans le terme de vocabulaire par rapport au Maccabée, on ne prie pas pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés, on prie pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Ils sont pardonnés, mais ils ne sont pas délivrés des conséquences de leurs péchés. Ils sont encore marqués par le péché. Le verre, il reste cassé. Et donc c'est l'amour qui répare. C'est exactement comme dans les confessions. Dans une confession, en principe, le prêtre qui vous donne l'absolution vous donne aussi une pénitence à accomplir. Parce que vous avez reçu le pardon, mais il reste à réparer. Alors, qui va réparer? Voilà. Ben, c'est le Christ qui va réparer. Le Christ est l'unique sauveur du monde. Mais nous avons la chance d'avoir une petite contribution possible. Nous pouvons collaborer, contribuer très modestement à cette réparation. Ce qu'on appelle la pénitence, on fait un petit acte de charité, une petite prière, et on dit, bah, Jésus, je voudrais participer un petit peu, puisque tu m'en donnes l'occasion à la réparation du mal que j'ai commis. Donc la pénitence, c'est pas se faire mal, c'est l'idée de la réparation par l'amour. C'est un acte de charité, de pénitence en principe, c'est pas se flageller pour rire, non, c'est compenser par amour ce que j'ai détruit, ce que j'ai pu détruire en moi ou dans les autres. là qu'on commence à approcher l'idée que c'est l'amour en général qui répare. Or, c'est le Christ qui me répare, c'est pas moi qui me répare tout seul, même si moi je peux contribuer, quand je suis vivant, je peux contribuer à ma réparation. Quand je suis au purgatoire, quand je suis défunt, par définition, défunt, ça veut dire qu'il n'a plus sa fonction. Qu'il ne peut plus agir. Ce qui fait qu'au-delà de la mort, je ne peux plus agir, je ne peux plus poser un acte de charité qui va réparer le mal que j'ai commis. C'est pour ça que la purification du purgatoire est une purification dite passive, parce que je me laisse purifier, je suis plus en mesure d'agir pour réparer, ce que je peux faire ici, le temps de la conversion, c'est maintenant ou jamais. Au-delà de la mort, c'est plus possible, donc c'est le Christ qui agit en moi, l'amour de Dieu qui agit en moi. Donc, les âmes du purgatoire ne sont plus en mesure d'agir pour elles-mêmes. En revanche, nous pouvons agir. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour elles. C'est la communion des saints. Le meilleur exemple que je connaisse pour expliquer ce que c'est que la communion des saints, c'est l'exemple de saint Paul dans le 1er Corinthiens, chapitre 12. Vous connaissez par cœur, l'Église c'est comme un corps, il y a tous les membres qui sont importants, il n'y a pas de membres qui seraient inutiles, etc., etc. Et il dit en particulier, si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre est à l'honneur, tout le corps est à l'honneur. Vous vous rappelez ça? Qu'est-ce que c'est qu'un membre souffrant dans le corps du Christ? Qu'est-ce que c'est de la souffrance dans le corps du Christ? Facile. Bah, le péché. Parce que le plein qui me répond, c'est la maladie, non. C'est le péché. Effectivement, c'est le péché. Si un membre est pécheur, tout le corps en subit les conséquences. Donc, chaque fois que je fais un péché, vous en subissez tous les conséquences. Puisque nous sommes solidaires aussi dans le mal. La preuve, le péché originel. On hérite, merci Adam. Voilà. Mais là, où un seul a péché, un seul aussi est mort pour nous, etc. Donc tout va bien, c'est pas fatal. Mais si un membre est pécheur, tout le corps en subit les conséquences. Et à l'inverse, si un membre est à l'honneur, donc c'est l'inverse du pécheur, si un membre finalement se sanctifie, devient un saint, alors tout le corps devient saint. C'est comme quand dans mon corps, si j'ai mal à la main, je dis « je » à mal à la main. J'ai mal à la main. Si ma main guérit, je dis « je suis guéri ». Voilà. Je dis pas juste « ma main guérit ». Souvent on dit « je suis guéri ». Mais c'est pareil. Donc vous avez compris que si on veut aider d'autres à aller bien, eh bien le meilleur moyen d'aider les autres à aller bien, c'est d'aller bien soi-même. Donc si on veut sanctifier les âmes du purgatoire, le meilleur moyen de le faire, c'est d'être un saint soi-même. Voilà. Donc ça engage un petit peu de prier pour les défunts. Il ne s'agit pas de dire « débrouillez-vous avec Dieu ». Non, le moyen le plus fort, garanti et sûr et efficace que j'ai d'aider les âmes du purgatoire à aller au ciel, c'est de devenir un saint moi-même. Parce que si je deviens un saint, tout le corps en plus. Si je fais des œuvres de charité, non seulement je me sanctifie moi, mais en plus, comme j'appartiens à un corps solidaire, tout le corps en profite. Et le Seigneur respectant ma prière, si je dis, je voudrais offrir tel acte de charité pour telle intention, eh bien, on peut espérer que le Seigneur respecte ma prière et favorise telle ou telle personne. C'est le même principe quand le pape François avait demandé, il y a 6 mois de ça, je sais plus très bien, aux chrétiens de faire une journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie. Je sais plus très bien quand c'était, vous vous rappelez en tout cas. On peut se poser la question, finalement, pourquoi, si moi je mange un bol de riz ici, pourquoi ça ira mieux là-bas, quoi? C'est pas évident, quoi. On a l'habitude un peu de procéder comme ça, mais si on me demande d'expliquer, ouais, mais non, si je mange une pomme, attends, en Syrie, facile. Bah, si je mange un, si je fais, si je jeûne, si je prie, c'est pas le jeûne pour le jeûne, c'est le jeûne pour renoncer à moi-même, c'est le jeûne pour partager avec ceux qui ont faim, c'est, voilà. Le jeûne comme œuvre de charité, la prière comme œuvre de charité, qui m'aide à me sanctifier. Alors si je me sanctifie, je peux espérer que ma prière, que mon œuvre, eh bien, elle fasse du bien à quelqu'un en Syrie qui prendrait une bonne décision pour en faveur de la paix, quoi. Ça, c'est ça l'idée de la communion des saints. Ça vaut au-delà de la mort, ça vaut d'ici à la Syrie, ça vaut d'ici à la Chine, ça vaut partout. Mais c'est l'amour qui relie. Donc les suffrages, c'est ça, offrir les suffrages pour les défunts. C'est plus qu'offrir des prières, c'est offrir sa vie de sanctification, offrir sa vie chrétienne, offrir sa vie d'évangile, offrir sa conversion, voilà, tout ça. Donc tout a du prix. Hein. Tout ce qu'on vit dans le secret, ton Père te le revaudra. Tout a du prix. Tous ceux qui peinent dans le silence, dans la solitude, dans une vie qui apparemment sert à rien, mais les gens sont là. Mais... tout a du prix. Tout sert à l'Église. Et Sainte Thérèse qui disait, d'ailleurs, Sainte Thérèse de Lisieux, qui disait, on verra seulement au ciel grâce à qui on a été sauvé. Elle disait, moi, j'ai pas fait de péché mortel. Sainte Thérèse disait ça, elle était pas par regret. Et elle disait, manifestement, moi, j'ai conscience de pas avoir commis de péché grave dans ma vie. Mais je suis pas meilleur qu'une autre. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai pas fait et d'autres en ont fait. Eh ben, je verrai au ciel grâce à qui? Grâce à qui a prié pour moi? Grâce à qui a offert sa vie et m'a été utile, etc., etc. Elle disait aussi, on peut sauver le monde en ramassant une aiguille. Ah, ça coûte pas cher, hein. Si on ramasse une aiguille par amour de sa sœur qui a fait tomber une aiguille, eh ben on sauve le monde. Non seulement je fais plaisir à ma sœur qui a son aiguille, non seulement je me sanctifie moi parce que je procède à un acte de charité, mais en plus, ben, le monde en profite. Voilà, je suis frère, c'est ça. La communion des saints, c'est ça. Ça va mieux? Voilà. Mais c'est important parce qu'on a beaucoup de... ben, c'est pas forcément votre cas à vous, mais... un public qui vient dans les sanctuaires, Mario qui débite du chapelet à longueur de journée, c'est très beau, mais on peut passer à côté de la plaque finalement, si on ne saisit pas que c'est pas faire un maximum de « Je vous salue Marie » qui sauve le monde, quoi. Ça peut être parfaitement inutile si je ne me convertis pas. Et ce qui est beau aussi, c'est pouvoir dire aux gens qui viennent ici avec un deuil, et qui, parce que chaque fois, posent la question, mon père, comment je peux savoir où est mon défunt? Est-ce qu'il est au ciel? Est-ce qu'il est au purgatoire? Comment je peux savoir? Et les gens sont inquiets par cette question, on comprend. Et je réponds évidemment que je ne sais pas. À moins qu'il y ait une canonisation un jour, on ne sait pas. Par contre, ce que je sais, c'est que si vous vous convertissez, vous lui ferez du bien. Je ne sais pas s'il est au ciel déjà dans le bonheur de Dieu, mais ce que je sais, c'est que si vous vous convertissez, vous lui ferez du bien. Donc on sait ainsi. C'est quand même consolant, je trouve, de pouvoir dire j'ai une certitude de foi qui fait que si je me convertis, si j'essaie de mieux vivre selon l'Évangile un peu chaque jour, si j'écoute la parole du Christ et que je la mets en pratique, je suis sûr que ça profite à ceux que j'aime. Ici, au-delà de la mort, en Chine ou ailleurs. C'est bien, non? Voilà. J'aime bien dire que le ciel, c'est gratuit, mais ça coûte cher. Voilà. C'est gratuit, le don de Dieu, mais ça coûte cher parce que il faut quand même se disposer à les recevoir, à les mettre en œuvre, etc. Ça coûte 2 piécettes, c'est pas cher, mais c'est tout ce qu'on a. La veuve qui donne 2 piécettes au temple, c'est pas cher 2 piécettes. Elle est justifiée par 2 piécettes. Mais pour elle, c'est tout ce qu'elle a. Elle a tout donné. Donc c'est pas cher, mais c'est... beaucoup. Voilà, en gros, en résumé, ce que je voulais vous dire sur la communion des saints, sur les suffrages, sur la prière pour les femmes. Voilà. Est-ce qu'on peut... avez-vous des questions depuis hier ou ce matin qui pourraient nous permettre d'approfondir certains sujets? Je sais qu'il y en a. Moi, je veux bien qu'on pose un peu toutes les questions qu'il y a. Voir si elles se... si on peut les rassembler éventuellement, et puis sinon on prendrait une par une. Donc il y a beaucoup de questions.
Concernant les larmes, est-ce que vous avez spécifié pourquoi j'ai décidé que
maintenant... Donc la question des limbes, hein, qu'est-ce qu'il y en est de l'existence ou pas des limbes? Voilà, ok, une question. C'est pas bien. Ouais.
Il y a un petit commentaire sur quand le Christ est descendu aux enfers.
Ah. Vous voyez que c'est pas là. Vous étiez là, la visite hier, non? C'est la basilique?
Non.
C'est pour ça.
Alors, non, mais c'est pas tout à fait dans le sujet.
Non.
Il y avait des défunts pour lesquels être personne de prix, en tout cas, pour les personnes de prix au moment. Qu'est-ce qui se passe pour eux?
C'est pas bon.
Ouais.
Il n'est pas fait mention des purgatoires dans la Phénix. Ils reviennent de la grande épreuve, ils vont laver leur manteau.
Ouais. Il est question de la purification, clairement. Mais comme je disais, la purification, c'est pas réservé au purgatoire. Donc on peut pas dire c'est le purgatoire, c'est la purification qui est nécessaire pour partager la vie de Dieu dans la cité sainte de Jérusalem. Il faut passer par le Christ. Dans tous les cas. Mais on est tous sauvés par le Christ, par le sang du Christ, mais est-ce que ça veut dire le purgatoire forcément? Pas sûr. Je pense plus large que le purgatoire.
Moi, c'est un peu brouillon, un peu flou, mais le baptême, ça sert bien à être lavé du péché originel.
Ouais.
Du coup, ceux qui ne sont pas baptisés, ils vont aussi avoir à être lavés de ce péché au purgatoire ou, enfin, quelle est la différence entre les baptisés et les non baptisés?
Ouais. C'était pas la carte.
Au-delà de ce qu'il y a des descriptions qu'on peut avoir dans la Bible, est-ce que certains saints ont pu avoir des visions du purgatoire ou est-ce qu'il y a eu entre nous une révélation du purgatoire qui a été faite à certains moments de l'Église?
Il y a des questions, hein?
On n'a pas beaucoup parlé de la notion de l'enfer.
D'accord. C'est pas qu'une notion. Bon, je prends déjà ça parce qu'il y a de quoi faire. Si on attend de prendre d'autres, on prendra d'autres, mais ça va être chaud. Pour commencer, bon, l'enfer, c'est vite réglé, donc c'est facile. L'enfer existe parce que Dieu nous aime. D'accord? C'est bon? C'est une preuve de l'amour de Dieu. Ça va? Bon, ok, je fais quelques liens. Dieu nous aime. Donc l'enfer existe parce que si Dieu m'aime, il ne m'oblige pas à vivre avec lui pour l'éternité. Si Dieu m'oblige à être au ciel avec lui pour l'éternité, alors Dieu n'est pas un Dieu qui m'aime vraiment, Dieu est un tyran, un dictateur. Donc pour préserver ma liberté, il est nécessaire que l'enfer existe. Il est nécessaire que j'ai la possibilité, moi, de dire à Dieu mon merci. C'est la garantie de ma liberté et donc de l'amour de Dieu envers moi. Et donc, je me plais à casser la baraque de tous ceux qui disent « parce que Dieu nous aime, il n'y a pas d'enfer ». Et non, c'est l'inverse. On réduit ceux qui veulent se faire appeler les défenseurs de l'amour de Dieu en disant ben donc, il n'y a plus de purgatoire, donc il n'y a pas d'enfer. C'était pour faire peur. Alors, en fait, Dieu est amour. On vient de le découvrir. Ben non. On ne vient pas le découvrir. Pour préserver justement cet amour de Dieu qui est vraiment de l'amour et pas une caricature humaine, eh bien, il faut que je puisse faire un vrai choix. Juste la possibilité de faire le choix définitif et conscient et libre et de dire à Dieu, oh, mais moi, l'amour, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas aimer, je ne veux pas t'aimer, je veux être dégagé de toutes ces contraintes d'amour toute ma vie éternelle. Et donc, c'est le choix de l'enfer. J'espère qu'il n'y a personne en enfer. Je prie pour qu'il n'y ait personne en enfer. Mais je crois fermement que l'enfer existe.
Et ce choix, il se fait quand?
Eh bien, il se fait, contrairement aux anges qui ont fait un choix définitif à l'instant de leur création, nous sommes créés dans le temps. Et donc, le temps de ce choix, il se prépare. En tout cas, ce choix définitif se fait au jugement particulier. Chaque personne, à sa mort, rencontre le Christ. On a vu un petit peu décrit par Benoît XVI hier, comme le feu dans la maison, etc. Et donc, Au moment de la mort, la rencontre du Christ est l'occasion d'un choix définitif. Toute ma vie, je fais des choix qui ne sont pas définitifs. Parfois, je fais des choix un peu chaque jour dans le sens du bien. Parfois, je fais des choix aussi dans le sens du mal. Soyons clairs. Donc, pour l'instant, je n'ai pas fait un choix définitif. Mais je ne peux pas dire non plus que j'ai choisi que de faire du bien, parce que je constate dans ma vie que je fais aussi du mal, que je ne voudrais pas faire parfois, mais que je fais quand même. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait de choix définitif. On prépare, en tout cas, un choix qui sera un jour définitif, forcément. Et donc, ce sera le moment de la mort. S'ils sont dans l'enfer, c'est pas la peine.
Du coup, on sait pas si on prie pour rien.
On prie jamais, il y a jamais de prière vaine. On prie jamais pour rien, ça n'existe pas. Au pire, ça sert à d'autres personnes. Et puis, la notion de temps me paraît un petit peu aussi, un peu floue dans la mesure où prier pour quelqu'un qui est déjà mort, c'est pas stupide pour qu'il se convertisse du temps de son vivant. Je peux prier pour que Charlemagne se convertisse, par exemple. Bah, dans le temps de Dieu, mes suffrages à moi, il n'y a pas de temps en Dieu, quoi. C'est pas stupide de penser que Saint-Thérèse disait qu'on sait pas par qui on sera sauvé, mais on ne sait pas si les personnes grâce à qui je suis sauvé ont vécu à la même époque que moi. Non, non, c'est fait. Je peux prier pour que Charlemagne arrête de faire ses conneries avec ses amis. Non. Non, mais pour nous, c'est mentalement, c'est stupide et. Non, c'est pas pour changer le cours de l'histoire, mais qui dit que Charlemagne ne s'est pas converti? Ou Saint-Louis? Grâce ou Clovis? Grâce à la prière des gens qui ont vécu après lui? J'en sais rien, mais moi ça ne me paraît pas philosophiquement impossible. Pour nous, humainement, mentalement, c'est un peu, on n'a pas l'habitude, mais c'est pour dire, dans cette communion des saints, la notion de temps, elle intervient peut-être pas forcément comme nous, on a l'habitude, quoi. Mais bon, c'est pas oublier ça si vous voulez, c'est pas grave. Donc il faut toujours prier pour tout le monde, voilà. Ne serait-ce que parce qu'on les aime et que c'est une manière de les aimer. L'enfer, c'est bon, ça suffit?
Non, 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 parce que la question, elle correspond exactement à ce que vous venez de dire. Mais quand le Christ est allé en enfer, moi, ma question personnelle, c'est comme ça que je m'interprète, parce qu'on a raison, je ne suis pas expert, c'est que le Christ est allé voir les âmes qui étaient dans l'enfer et leur a proposé, il leur a dit ce que Jésus dit. Et donc, ça veut dire que dans mon esprit, c'est dans l'enfer, on peut.
En fait, le piège, mais les autres le savent, parce qu'on en a parlé hier en visitant la basilique, le Christ n'est pas descendu en enfer, il est descendu aux enfers. Ce qui n'a rien à voir. Les enfers ne sont pas l'enfer. Puisque l'enfer est un choix définitif. Les enfers, ce sont, c'est là qu'on place, si on peut dire, les morts qui sont morts avant le Christ, les justes, qui méritaient d'aller au ciel, si on peut dire, mais qui sont morts avant le Christ, donc pour lesquels les portes du ciel n'étaient pas encore ouvertes. Donc le Christ va au Sheol, la GN, etc., aux enfers, pour aller prêcher la bonne nouvelle, effectivement, à ces personnes qui attendaient aussi le salut, qui le méritaient, et que le Christ est allé chercher. Voilà. Sinon, ce n'est pas l'enfer. Donc ça, c'est fait. Pour parler des limbes, puisqu'on parlait des enfers, c'est un peu lié aux limbes. Parce que le terme de limbe, pour certains, ça veut dire les enfers, donc ça existe, mais autant parler des enfers, ça c'est plus simple. Et pour d'autres, les limbes, c'est une hypothèse théologique qui avait été édifiée pour répondre à la question des enfants morts sans baptême. Parce que les enfants morts sans baptême, la question est la suivante, ils sont à la fois innocents de tout péché personnel, donc ils ne méritent pas d'aller en enfer, et à la fois, ils sont porteurs du péché originel, par héritage, et donc ne peuvent pas entrer tel quel au ciel, quoi. Voilà. Et donc, les théologiens, cherchant à répondre à cette question particulière, eh bien, nous pouvons ni les mettre en enfer, ni les mettre au ciel, eh bien, chercher à un lieu pour eux, qui soit un lieu, si entre guillemets, qui soit adapté pour eux. Et donc, les limbes, c'était une sorte de paradis qui n'était pas tout à fait un, mais pas non plus un enfer, mais définitif quand même, destiné aux enfants morts sans baptême. C'était une hypothèse théologique, et quand Jean-Paul II était pape, Benoît Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la foi, Jean-Paul II a dit l'hypothèse des limbes est insuffisamment justifiée. Elle n'est pas appuyée sur des choses solides. Donc, pour l'instant, on la met au placard. Donc, oui, des enfants morts sans baptême. Eh bien, le catéchisme dit, on ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu. On ne sait pas ce qu'il advient des enfants morts sans baptême, nous. Ce qu'on sait, c'est que Dieu les aime. Ce qu'on sait, c'est que Dieu veut les sauver. Ce qu'on sait, c'est que Dieu a les moyens de les sauver. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça marche du coup. Nous, on sait que le baptême, ça marche. On a ce moyen-là à notre portée. Mais on a foi en la miséricorde de Dieu. On a foi en sa puissance salvatrice. On a foi en son amour, en particulier pour les enfants. Voilà. Notre foi, elle s'appuie là-dessus. Et notre espérance, c'est sa miséricorde pour eux. Voilà comment l'Église répond à la question aujourd'hui. Ça permet d'embrayer sur à quoi sert le baptême et quid de ceux qui ne sont pas baptisés. Donc on a vu pour les enfants morts sans baptême, il n'y a pas que des enfants qui meurent sans baptême, évidemment. Dans le catéchisme, il est dit que le baptême est un sacrement de nécessité de salut. Et le Christ dit aussi, qui croit en moi et sera baptisé sera sauvé, qui ne croit pas sera condamné. Sauf que le baptême dont on parle là n'est pas forcément le baptême sacramentel. Le sacrement du baptême. Le baptême, c'est au sens large une configuration à la mort et à la résurrection du Christ. Une personne qui est baptisée, elle est configurée, configurée au mystère pascal du Christ. Elle devient participante de sa mort et de sa résurrection par grâce de Dieu. C'est l'effet du baptême. Mais le catéchisme dit aussi que Dieu, qui est lié dans ses sacrements, c'est-à-dire que quand un prêtre ou un diacre ou n'importe qui baptise. Dieu est lié dans ses sacrements. Mais Dieu n'est pas lié par ses sacrements. Donc, ça veut dire que Dieu peut agir aussi en dehors de ses sacrements. Ce qu'on sait, c'est que quand on baptise, Dieu baptise. Mais si Dieu veut un plan bis pour d'autres, il nous appartient pas de le maîtriser, quoi. Nous, ce qui est donné à l'Église, c'est le sacrement, à commencer par le baptême. Mais Dieu est libre d'agir autrement, comme il veut, pour d'autres, quoi. Donc l'Église croit qu'il y a un chemin de salut pour les non-baptisés, ce qu'elle appelle les hommes de bonne volonté. Il y a un seul sauveur pour le monde. Tous les hommes du monde sont sauvés par le Christ. Ça, c'est incontournable. Mais pas forcément par la voie du baptême, ou de la vie chrétienne. Mais on maintient absolument quand même que tous seront sauvés par le Christ. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un autre moyen de salut que la vie chrétienne, au sens de la vie sacramentelle, oui, mais au sens de la vie avec le Christ, non, au final, tout le monde est sauvé par le sang du Christ. Musulman ou pas, ou athée, ou juif, ou chrétien, ou autre. Donc le baptême dont il s'agit, il faut être baptisé du mystère pascal du Christ, c'est nécessaire au salut, on le comprend maintenant au sens large. Nous, on a un moyen certain, on a l'autoroute, nous, du salut, par les sacrements, à commencer par le baptême, mais Dieu peut agir aussi, l'Esprit Saint n'est pas circonscrit à l'œuvre de l'Église terrestre, et Dieu peut agir aussi donc en dehors des moyens habituels, quoi. Pour vous rappeler le Matthieu 25, il y a les brebis et les boucs, sur quoi est fait la différence. C'est pas d'avoir été baptisé ou pas, c'est d'avoir aimé ou pas, et on peut espérer qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur prochain, en dehors de la vie chrétienne. On devrait être exemplaire là-dessus, mais on n'est pas toujours. Et donc on espère un salut aussi pour les non-chrétiens, pour les non-baptisés. Un salut par le Christ, mais qui passe par des voies non-chrétiennes. Mais ça n'empêche pas que pour faciliter ce chemin, nous avons le devoir d'annoncer le Christ, l'évangile, de baptiser, de proposer le salut, de parler de Jésus qui est le sauveur du monde, à faire autant de le savoir maintenant. Quoi. Est-ce que ça répond à la question? Enfin, aux questions? Donc le baptême est important, mais les non-baptisés ne sont pas condamnés pour autant. Quoi. Mais Mais on sait où ils vont, hein, au sens où il n'y a pas 36 choix possibles. Quoi. C'est soit la voie du ciel via le purgatoire éventuellement, soit la voie de l'enfer. Quoi. Entre parenthèses, ne mettez pas... changez un peu vos schémas. Si jamais vous mettez le ciel, le purgatoire, l'enfer, ça c'est archi faux, ça. Le purgatoire n'est pas entre l'enfer et le ciel. Le purgatoire, il est entre la terre et le ciel. Et l'enfer, c'est une autre chose, quoi. Mais le purgatoire, c'est le chemin vers le ciel. C'est forcément provisoire, on est sûr d'en sortir, on est sûr de sortir en allant au ciel. C'est le chemin vers le ciel. Donc, c'est pas mettre l'enfer entre, enfin, le purgatoire entre, c'est pas un intermédiaire entre l'enfer et le ciel, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est un intermédiaire entre la terre et le ciel. Et l'enfer, c'est en face. J'ai pas dit, ou alors je me corrige, qu'elle ne veut plus rien dire. Je pense que la notion de temps n'est pas absolument... Enfin, je pense, ça c'est... Les avis là-dessus sont très... Enfin, on n'a pas fini d'en parler. Vous pouvez lire d'ailleurs les confessions de Saint-Augustin. À la fin, il fait tout un chapitre aussi sur la notion du temps, quoi. Et c'est pas le seul à le faire. Je pense que la notion... Moi, j'ai tendance à penser que la notion de temps n'est pas complètement absente au-delà de la mort. Puisqu'effectivement, le purgatoire est une progression vers le ciel, un progrès dit évolution, quoi, et qu'il y a aussi un avant et après la résurrection. Et aussi parce que nous sommes tous solidaires les uns des autres, et que ceux du ciel et du purgatoire sont liés solidairement dans la grâce à des personnes qui sont dans le temps, nous. Donc, je pense que la notion de temps existe quelque part, d'une forme que je ne connais pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que cette notion de temps est affranchie du temps mesuré par la rotation des astres et l'évolution de la matière et autres. On n'est plus dans la matière ni dans les astres, quoi. N'empêche qu'il y a une partie de l'Église qui vit là-dedans. Et n'empêche qu'au-delà de la mort, il y a une progression quand même vers le ciel et la résurrection. Voilà. Avec ça, tu te débrouilles. Mais il y a aussi, ça c'est des pistes que je connais encore moins, tout ce qui est lié à la relativité mécanique quantique et autres. Je pense qu'il y a une approche du temps aussi qui pourrait être scientifiquement abordable et qui relativiserait aussi, enfin, qui pourrait peut-être faire une avancée dans le temps au-delà de l'espace tel qu'on le connaît nous. Enfin, mais là, je suis pas bon là-dessus. Je donne des pistes. On parlait de l'enfer, donc ça tombe bien. Le péché contre l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint, Jésus en parle comme d'un péché qui ne peut être remis ni dans ce monde ni dans l'autre. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Dieu est tout puissant, Dieu pardonne tout, il n'y a pas de limite à sa miséricorde. Ça faut le tenir absolument. Mais on tient aussi absolument notre liberté, et que si nous on ne veut pas demander pardon, si on ne veut pas de son pardon, Dieu nous respecte notre choix. Donc le péché contre l'Esprit Saint, on a coutume de dire que c'est l'obstination dans le refus de l'amour qui peut advenir être définitif et donc conduire à l'enfer. J'espère qu'on est loin de ça. On est quand même plus conscient que assez facilement on peut refuser de l'amour à quelqu'un. On peut refuser de prêter sa gourde à quelqu'un qui a soif en pèlerinage à côté de moi. Moi ça m'est arrivé. Quand le Christ me dira « Est-ce que t'as donné à boire à celui qui avait soif ?» c'est très simple, c'est très très trivial, et je me dirais « Ben, c'est pas si évident. » Voilà. Mais pour autant, j'espère encore me convertir et monter un peu et élargir un peu mon cœur avec la grâce de Dieu. Et donc, je me sens pas obstinément contre le fait d'un jour, spontanément et très librement et joyeusement, donner à boire à tous ceux qui ont soif. Mais voilà, il peut advenir que mon cœur s'endurcisse vraiment, se ferme et que je refuse, que je me ferme à l'amour. Ce serait ça le péché contre l'Esprit Saint. Contre l'Esprit Saint qui vient guérir mon cœur, ben je suis contre cet esprit qui viendrait me guérir en disant mais ne me touche plus, laisse-moi tranquille maintenant, terminé. Ça va? Ça c'est fait. Non. Peut-être, on n'a aucune manière d'en juger. Ben, on n'en sait rien. C'est très compliqué. D'ailleurs, l'attitude pastorale de l'Église par rapport aux personnes mortes par suicide a évolué. Hein, jusqu'il y a encore assez peu de temps, l'Église refusait de mettre des obsèques chrétiennes pour les suicider. Non pas parce qu'elle pensait qu'ils étaient en enfer, qu'il ne fallait pas payer pour eux, mais parce que l'Église voulait marquer la gravité de l'acte. Voilà. Aujourd'hui, l'Église a plus tendance, tout en maintenant la gravité de l'acte, à accompagner les gens qui sont touchés par ce deuil. Et voilà, donc la pratique pastorale a évolué, l'acte reste aussi grave qu'avant. Mais pour autant, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se suicide, on a aussi un peu plus compris grâce aux sciences modernes de psychologie et autres, que c'est très complexe, que c'est du cas par cas, on ne peut pas dire il s'est suicidé, donc il était contre Dieu. C'est beaucoup trop schématique et réducteur pour être vrai sans doute. Donc, beaucoup disent il s'est suicidé parce qu'il voulait être mieux, il voulait la vie, il voulait être heureux, il cherchait le bonheur, il ne trouvait pas bonheur sur Terre. Bon, autant de mauvaises raisons de se suicider. Mais qui font comprendre que c'est pas forcément la haine de Dieu et de la vie qui fait qu'on se suicide, quoi. Donc non, j'associe pas du tout le péché contre l'Esprit Saint. Enfin, je rapproche pas spontanément les suicides du péché contre l'Esprit Saint. Il peut y avoir un suicide par haine de Dieu qui dit je me retire de la vie parce que tu m'as donné la vie et j'en veux pas. Ça rapprocher un peu du péché contre l'Esprit Saint. Mais après, Dieu seul connaît les reins et les cœurs. Hein, il ne joue personne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les défunts pour qui personne ne prie? Et la question aussi était, qui prie pour les âmes du purgatoire? Qui prie pour les âmes du purgatoire? D'abord, on a compris qu'il y a un seul sauveur du monde, c'est le Christ. C'est l'amour de Dieu qui purifie. Donc, il ne s'agit pas de faire de nous les héros du purgatoire, les sauveurs du purgatoire, on va sauver tout le monde. Non, c'est le Christ qui sauve tout le monde. Les mérites des saints aussi, à commencer par la Vierge Marie, tous les saints, les martyrs, qui ont augmenté le trésor de grâce de l'Église, qui se déverse ensuite sur ceux qui en ont besoin, en purgatoire ou sur terre. Nos petits mérites aussi qui viennent s'ajouter au panier, et qui contribuent aussi à l'enrichissement de tous ceux qui ont besoin dans l'Église, on a compris. Donc tout le monde prie pour les âmes du purgatoire. D'abord le Christ, c'est lui l'unique sauveur, et les saints du ciel et nous-mêmes. Sachant que toute la charité qui nous permet de les sanctifier aussi, eh bien dans cette charité, la grâce est première. C'est pas ma propre force à moi qui me fait me sanctifier et sanctifier les autres. C'est parce que je vis de la grâce du Christ que je fais un acte de charité, quoi. La grâce est toujours première. Ça répond à la question, est-ce que c'est par nos œuvres que je me sanctifie? Oui, c'est vrai, avec mes œuvres, mais mes œuvres dans l'Esprit Saint, quoi. Si c'est un acte de charité, la charité, c'est la vie de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Donc si je vis de l'amour de Dieu, c'est parce que Dieu me donne son amour déjà, quoi. D'accord ? Donc même si on dit qu'on contribue à la sanctification des autres, en fait, c'est le Christ qui nous permet de contribuer. Et donc le Christ est toujours premier et reste unique sauveur. Mais nous-mêmes, étant dans l'amour du Christ, eh bien, nous participons à cette vie du corps du Christ. Mais parce que nous sommes dans cette vie du Christ, parce que nous avons la vie qui coule de la tête, le Christ est la tête du corps, parce que nous sommes attachés à cette tête, parce que les sarments sont attachés à la vigne, et quand de lui on ne peut rien faire, mais si on est attaché à lui, on porte du fruit. Voilà, le fruit de nos œuvres, nos mérites, notre salut, eh bien c'est nos œuvres, d'accord, mais c'est parce qu'on est attaché à la vie du Christ, quoi. Donc tout le monde prie pour le purgatoire, pas elles-mêmes, elles ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, c'est pour ça qu'il faut prier pour elles, parce qu'elles-mêmes sont impuissantes à prier pour elles-mêmes et à sanctifier elles-mêmes, mais il y a toute une foule de saints, avec le Christ, encore une fois, dans le Christ plutôt, et nous-mêmes qui prions pour eux, quoi. Du coup, ça répond aussi à la question pour des âmes pour qui personne ne prie, il n'y en a pas, en fait. En fait, il n'y en a pas au sens strict, parce que d'abord, c'est le Christ qui les sauve, et qui les tient à qui s'en occupe, quoi. Ensuite, tous les saints du ciel, à commencer par la Vierge Marie, je suis persuadé qu'ils prient pour toutes les âmes purgatoires. Et après, il y en a certaines, quand même, qui ont les prières de ceux qu'elles connaissent, quoi. C'est certain. Et c'est pas anodin, si j'ai pas de dire, ça sert à rien, c'est pareil pour tout le monde. Il y a une solidarité aussi qui est marquée par l'affectivité, par les liens qu'on a tissés sur Terre, qu'on connaît ou pas, etc. Par exemple, si j'ai une grande dévotion envers Sainte Thérèse,
je peux espérer que s'intéresse au culte de moi particulièrement.
Donc on peut avoir des liens entre la terre et des liens entre la terre et le ciel, d'amitié particulière, qui porte du fruit, qui porte un fruit particulier. Voilà. Ça n'empêche pas que tout le monde est sous la protection, sous le manteau de Marie, on pourrait dire, et dans le feu de l'amour de Dieu. Donc il y a des personnes pour qui il y a moins de gens qui prient, parce qu'ils n'ont pas ces relations d'amour qui s'aiment, mais n'empêche que le ciel s'occupe d'eux, quoi, d'une part. Et d'autre part, l'Église prend en charge la prière pour tous les défunts. Vous remarquez qu'à toutes les messes, depuis toujours, l'Église prie pour ceux qui sont morts, sans lire s'ils sont chrétiens ou pas, quoi. Donc à toutes les messes, l'Église prie pour tous les défunts, du monde entier, quoi. Et l'œuvre de Montlignon a été créée par l'abbé Buguet, vous avez compris ça, pour les âmes délaissées du purgatoire. Parce qu'en fait, excusez-moi, dans le diocèse de C, il y avait déjà une œuvre de prière pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Et la règle à l'époque, c'était qu'il n'y en ait qu'une seule par diocèse. Alors il a fallu qu'il se différencie. Et il s'est différencié en disant, mais moi, mon œuvre sera la prière pour les âmes délaissées du purgatoire. Donc spécifiquement, l'œuvre de Montlignon a cette charge aussi de prier pour les âmes délaissées du purgatoire. Ça va toujours? Bon, ça répond. Est-ce qu'il y a eu des saints qui ont eu des visions du purgatoire? Pas en tant que tel. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. La sainte la plus connue par rapport au purgatoire et dans ce lien avec les visions, c'est Sainte Catherine de Gênes. Sainte Catherine de Gênes, elle a écrit un petit traité du purgatoire, très court, que vous pouvez vous procurer à la librairie du sanctuaire. Et c'est pas cher. C'est vite lu, et en fait, Sainte Catherine de Gênes, elle n'a pas eu une vision du purgatoire, mais elle a eu, c'est une mystique en fait, et elle a eu une expérience spirituelle dont elle dit qu'elle se rapproche de ce qu'on vit au purgatoire. Ce qui fait qu'elle a écrit un traité du purgatoire qui décrit un petit peu l'état des âmes qui sont au purgatoire. Elle dit, par exemple, pour rien au monde, une âme du purgatoire ne voudrait revenir sur terre. On a tendance à dire que c'est horrible le purgatoire, peut-être. Mais en tout cas, pour rien au monde, une âme du purgatoire ne voudrait revenir sur Terre. Tout simplement parce qu'au purgatoire, on est sûr d'aller au ciel. Ici, on n'est pas encore sûr d'aller au ciel. Parce qu'au purgatoire, on ne pêche plus, on n'offense plus Dieu, on ne fait plus d'actes mauvais. Alors qu'ici, on continue à en faire. Donc, c'est bien plus sympa d'être au purgatoire que d'être sur Terre. Elle parle aussi de la souffrance du purgatoire, d'être encore dans un non-achèvement dans l'amour de Dieu. Elle parle aussi de la joie, etc. Voilà. Elle a une quasi-description du purgatoire, mais qui n'est pas liée à une vision, qui est liée à l'expérience mystique dont elle dit qu'elle se rapproche. Et c'est un écrit qui est reconnu par l'Église, pas comme théologique, mais c'est admis, c'est cité parmi les ouvrages qui sont autorisés à parler un peu du purgatoire. À ma connaissance, ce qui est le plus intéressant parmi les saints qui décrivent un peu le purgatoire. Des saints qui parlent du purgatoire, il y en a beaucoup, comme le curé d'Ars qui dit c'est l'infirmerie du bon Dieu, mais ils en parlent comme moi j'en parle, à savoir avec des images bibliques et autres. De manière plus concrète, si on peut dire, c'est plus Sainte Catherine de Gênes. Je sais pas. Je ne sais pas très bien tout ce qu'a dit la Vierge Marie à Fatima. Je sais qu'il y a eu des visions, au moins de l'enfer, voire du purgatoire. Mais comme je vous disais hier, l'Église n'a jamais retenu ces visions pour en dire, bah tiens, en fait, on a, ça y est, on sait maintenant ce que c'est le purgatoire. Donc ça n'engage que ceux... Ouais, mais bon, ça on sait déjà, quoi. Ouais. Mais en fait, je ne sais pas ce qui a été dit ou pas dit. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien ajouté à la foi de l'Église, quoi. Là, j'ai fait toutes les questions.
Est-ce que le péché contre l'esprit a quelque chose à voir avec l'aveuglement spirituel?
Je ne sais rien, moi. Qu'est-ce que tu appelles l'aveuglement spirituel?
Du refus de l'amour de Dieu, un aveuglement du bien et de la
mauvaise. C'est lié à une obstination volontaire, quoi. Un endurcissement qui soit, dans lequel j'ai une responsabilité. Parce que je pense en lisant ça à Pharaon, j'ai endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, tel que c'est rapporté. Donc c'est la manière de dire de la Bible. Donc est-ce que Pharaon a fait un péché contre l'Esprit Saint, ou est-ce que c'est Dieu qui, dans son plan de salut, a voulu un aveuglement, mais qui n'est pas forcément que du fait de Pharaon? C'est pas très bien. Mais si c'est de mon fait, cet endurcissement et cet aveuglement, si j'ai marre, si c'est mon choix personnel, alors oui, c'est péché contre l'Esprit Saint. Parce que aveuglement spirituel, ça peut aussi faire référence à la nuit de la foi de certains saints, au contraire. Ça dépend ce qu'on entend par là, quoi.
Pourquoi est-ce que Dieu voudrait endurcir le cœur? C'est bizarre.
C'est exactement ce que je trouve. C'est bizarre, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop prendre au pied de la lettre, forcément, la façon dont c'est raconté. Parce que le rapport de Dieu aux hommes, c'est comme que Dieu envoie les juifs exterminer les nations païennes. C'est bizarre aussi, un petit peu. Donc il faut faire attention à ne pas caricaturer Dieu à partir de tel ou tel aspect de la Bible, et en tout cas de l'Ancien Testament. Tout se lit ensemble, donc faire un petit peu attention à la lecture. Mais oui, ça s'interroge en tout cas. Ah!
Par exemple, une
maman qui vécu,
donc
qui a péché, qui va pas au paradis, et qui s'en va
un peu prématurément,
elle va priver pour ses enfants quand même, elle va avoir un œil encore sur eux. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut considérer quand même? Alors, je vais faire deux réponses. C'est une bonne question qu'on a souvent, effectivement. Je donne souvent deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que d'un point de vue strictement théologique, on ne sait pas si une âme qui est au purgatoire est en mesure de prier pour nous. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne peut pas agir pour elle-même. Et les théologiens sont divisés sur le sujet. Il y a des grands théologiens comme saint Thomas qui disent que non, une âme du purgatoire ne peut pas prier pour nous. D'autres disent que oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de point de vue tranché et définitif pour répondre à cette question d'un point de vue théologique. D'un point de vue plus pastoral, je dirais, on s'en fiche, dans la mesure où effectivement la notion de temps n'intervient que peu, puisqu'une âme du purgatoire sera nécessairement un jour au ciel, elle sera nécessairement un jour en mesure de prier pour moi. Et le délai entre ces deux instants, c'est peut-être pas un délai finalement. Du coup, même si on ne sait pas répondre si une âme qui est dans l'état du purgatoire peut prier pour nous, ça n'empêche pas, sans inquiétude, de se confier à ses grands-parents, à sa maman qui est défunte, ou, en espérant que mon grand-père, ou ma maman qui est défunt, veille sur moi. Voilà. Sans se poser la question, mais est-ce qu'elle est au purgatoire, est-ce qu'elle est au ciel, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut pas? On s'en fiche. Ce qui est sûr, c'est qu'elle peut, finalement. L'Église n'a jamais mis personne en enfer. Donc, il y a des théologiens qui écrivent des bouquins de référence qui mettent Judas en enfer. Parce que le Christ a dit il lui mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Donc ça s'interroge quand même, c'est une phrase qui a du poids. Pour autant, Jésus ne dit pas Judas est condamné. Il dit il lui mieux valu, enfin ça laisse une marge un peu à l'interprétation quand même. Donc oui, certains théologiens voudraient bien, en s'appuyant sur l'Écriture et l'Évangile, la phrase de Jésus, dire ben, il y a quelqu'un en enfer, c'est au moins Judas. Mais pour autant, l'Église n'a jamais tranché là-dessus.
On peut prier pour...
On veut prier pour Judas. Exactement. Exactement. Donc là, j'ai choisi de ne pas aborder, parce qu'on n'aura pas le temps de faire en 5 minutes, le thème de la résurrection. Voilà, c'est bien comme ça. Il y a beaucoup de thèmes liés aux fins dernières qu'on peut aborder. Là, on a fait un gros déblayage sur le purgatoire, et un peu le jugement et la prière pour les défunts, comme le dessin. Mais il en reste pour le prochain comme ça. Il n'y a plus de questions? Comme ça, on peut souffler un peu avant la messe. Mais je vous invite quand même à aller consulter. Parce que tout ce que j'ai dit là, finalement, c'est des petits commentaires de quelques passages de l'Écriture, vous avez remarqué, du Magistère, Vatican II, de loi 16, et aussi c'est reprendre ce que dit simplement le catéchisme de l'Église catholique. Il y a des paragraphes très sobres, et très clairs et très explicites sur ces questions-là. Le purgatoire, l'enfer, le ciel, le jugement, la communion des saints, la prière pour les défunts. Tout ça, c'est dans le catéchisme, avec les références bibliques ou magistérielles qui s'y rapportent. Donc, on peut facilement aller approfondir aussi chez soi. De Maccabée 12, 39. 1 Corinthiens 3, 10. Apocalypse 21, tout le chapitre. De quoi j'ai parlé? Éphésiens 1, 4. Sagesse 7, et les poussières. Pour la... Rien de souillé ne peut entrer en elle.
Le
début de la vie, c'est ouais. Il faut lire aussi les versets suivants. Éphésiens 1, 4, 1042. voilà, pour ce que j'ai cité, c'était ça essentiellement. Donc c'est très... très succinct par rapport à l'ensemble du bouquin, quoi. Voilà, merci de votre attention.